Boomerang avec Yannick Enel, c'est parti. Partagé par l'historien Patrick Veil ce week-end, ces mots de Pierre Mendès France publiés il y a 36 ans. 36 ans. Je crois que les Français sont très capables de s'intéresser à leurs affaires si vraiment on leur donne la parole. Mais dans la mesure où on ne leur donne pas la parole et où tous les pouvoirs sont concentrés en des lieux un peu lointains, mystérieux, en tout cas inaccessibles, renouvelables à de très lointains intervalles, je crois que ceci est susceptible de provoquer des réactions fort peu démocratiques. Soit une grande indifférence, on se détourne de la vie politique, soit la recherche de moyens d'intervention extra-institutionnels, le désordre, la manifestation, les interventions sous des formes diverses que nous voyons se multiplier. Un jour ce sont les étudiants, un jour les viticulteurs, un jour les fonctionnaires, chacun cherche à se faire, à se rendre justice par des procédés qui ne sont pas ceux de la démocratie, qui ne sont pas ceux d'un fonctionnement institutionnel normal. Alors je crois que, de ce point de vue, cette Constitution, dans la mesure où elle a systématiquement voulu que le seul maître soit un homme, fut-il élu au suffrage universel, a eu pour effet d'affaiblir les ressorts démocratiques et la réalité démocratique de ce pays. Pierre Mendès France, regard sur la Ve République, entretien avec François Lanzenberg, publié à 36 ans. 36 ans.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel regard mon invité porte-t-il sur les structures du pouvoir? Il est écrivain, auteur de Yann Karski, lauréat il y a 2 ans, vous vous souvenez, du prix Médicis pour Tiens, ferme ta couronne. Dans La solitude Caravage, publié aux éditions Fayard et en librairie aujourd'hui, il se penche sur le lien intime qui l'unit au peintre italien du XVIe siècle pour mieux proposer une réflexion sur la création et sur le sacré. Bonjour Yannick Enel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Tout d'abord, comment est-ce que vous l'entendez, vous, ce texte de Mendès France qui a été publié à 36 ans, mais qui est encore plus vieux que cela? Qu'est-ce qui vous inspire?
Plus vieux et plus neuf. On a l'impression qu'il vient d'être écrit ce matin. Merveilleux texte. Je pense que se concentre dans cette parole l'idée que peut-être à vouloir représenter à outrance un peuple, on lui enlève sa légitimité et sa parole.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, à quoi est-ce que vous avez l'impression d'assister, vous?
C'est un mouvement passionnant, un mouvement très ambigu évidemment, mais moi je pense sans cesse à tous les jours à ce que Giorgio Agamben appelle la destitution, à savoir qu'il y a quelque chose entre l'anarchie et la démocratie qui pourrait se jouer de neuf. Je me demande souvent pourquoi est-ce qu'on a un président en France, mais pas seulement en France. Pourquoi cette représentation-là, qui semble de plus en plus lointaine, pourquoi est-ce qu'on ne s'organiserait pas autrement? Voilà, ce sont des choses très simples. Et le texte de Mendès France semble y inviter. 36 ans, vous avez dit. Voilà, une parole véritablement démocratique exigerait peut-être qu'on révolutionne la parole.
Au moment où nous préparions cette émission, vous avez émis le souhait de parler effectivement d'anarchie et de démocratie. De quel côté est-ce que vous penchez, vous, Yannick?
Ah, mais j'ose le dire, du côté de l'anarchie. Mais pour moi, l'anarchie, c'est pas la violence tous les jours, c'est pas le sang qui coule dans les rues. L'anarchie, c'est une disposition intime, personnelle, c'est une façon d'aimer le monde différemment.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus anarchique chez vous?
La solitude.
Au fond, dans quelle France est-ce que vous avez l'impression de penser, d'écrire, de vivre en ce moment, Yannick Enel?
Une France qui n'en finit pas de ressasser obsessionnellement une souveraineté qu'elle n'a plus, une souveraineté absurde et ridicule. La communauté, au pire sens du terme, je pense que c'est quelque chose qui nous amène à des impasses, à la violence. Quand je parle de solitude, c'est la solitude de chacun, la solitude qui rencontre la solitude de l'autre, c'est l'amour au fond. Et moi, je m'identifie pas du tout à un pays. Je suis français, mais j'écris en français. Mais cette France que à laquelle je pense, cette France métapolitique, si je puis dire, c'est une France, je sais pas, universelle, disons, qui n'aurait pas besoin de se jouer à elle-même la comédie du pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que ce serait qu'une politique qui désamorce les rapports de force? C'est ça ce que j'appelle l'anarchie.
Mais quelle peut être la place de l'artiste dans toute sa solitude, justement dans un contexte comme celui-ci, les artistes qu'on entend très peu sur ce mouvement?
Je me dis que peut-être les artistes ont comment dire, font de la politique par d'autres moyens. Enfin, les peintres font de la politique dans leur atelier 12 heures par jour. La politique, c'est pas quelque chose qui se scande dans les manifestations. C'est pas seulement quelque chose qui se joue à l'Assemblée nationale. La politique, c'est chez soi aussi. C'est dans la rue. C'est entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes et plus. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire? Mais leurs œuvres parlent. Regardez un Bacon, regardez un Caravage, ou allez voir les peintres d'aujourd'hui, vous allez voir si c'est pas politique.
Qu'est-ce que la peinture du Caravage, puisque c'est le sujet de votre livre, nous dit de la solitude et du monde, Yannick Hennel?
J'ai passé un an, effectivement, à essayer de formuler ce que ça peut bien nous dire, parce que là, c'est un paradoxe, la peinture, c'est le silence. Les figures peintes se dressent face à nous dans nos vies sans parler. Enfin, et cet autre langage, ce que ça nous dit, c'est celui de cette violence quasi sacrée qu'il y a en nous et qui est la même que ce que j'appelle l'anarchie, c'est-à-dire ne pas se laisser faire, ne pas céder sur son désir. Je crois que le Caravage, c'était un insoumis avant tout. C'était quelqu'un qui n'a plié le genou devant aucune autorité, malgré sa ferveur religieuse,
vous
voyez.
Vous écrivez, et c'est passionnant, que cette solitude est liée à son incapacité à s'abandonner aux bras du Christ, tant il est tourmenté par le péché.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, si je savais ce que ça voulait dire, j'ai risqué par ce genre de phrase, et il y a 300 pages de ce genre de phrase, j'ai tenté de comprendre ce qui peut animer un homme aussi sauvage, aussi impérieux, aussi irascible. C'est un homme qui se battait, en fait, qui passait ses nuits ivres, dont qui pouvait dire mes nuits sont plus belles que vos jours, sans doute. Mais qui revenait à son atelier avec ses protecteurs, au fond, le Caravage savait beau être un révolté, c'était quelqu'un qui avait énormément de succès, et qu'est-ce qu'il cherchait, effectivement? Qu'est-ce qui animait sa peinture? Je pense que c'était un cheminement, une expérience qui allait le mener vers une forme d'absolu. Alors, à l'époque, c'est le Christ. Je dis à l'époque parce que je suis pas sûr qu'un peintre aujourd'hui ou un écrivain soit nécessairement mené par une expérience spirituelle christique. Mais en tous les cas, cette spiritualité, une spiritualité peut-être athée, c'est le cœur même de ce qui nous mène.
Et elle vous permet, à vous, écrivain, d'articuler toute une réflexion autour de la création et du sacré. En quoi l'écriture est-elle pour vous indissociable d'une expérience spirituelle presque mystique, j'ai l'impression?
Mais oui, moi ce qui m'importe, c'est ce qui déborde. Ce que j'aime, c'est l'excès. Vous m'avez tout de suite parlé de pouvoir, des structures de pouvoir. C'est insupportable pour moi, c'est intolérable. Le pouvoir.
Il faut que ça déborde.
Il faut que ça déborde. Et c'est pas nécessairement une transgression. Je pense que ces choses-là se font à un point de solitude le plus calme, le plus ardent. Je pense que le feu est calme. Et il y a quelque chose d'indomptable en chacun de nous. Duras dirait quelque chose d'irréductible. Ce point où la société n'a pas prise en chacun de nous. Ce point où on est amoureux, où on n'a plus besoin de s'exprimer au fond. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça le cœur de l'écriture et, je suppose, de la peinture.
Je ne désirais me soustraire à aucun appel. Il me semblait même avoir aperçu combien celui du Christ coïncidait avec la naissance de l'écriture en moi, naissance perpétuelle, que chaque phrase remettait en jeu et qui ne cessait de s'approfondir à travers des expériences poétiques, une lumière qui me rapprochait d'elle-même. Voilà, mon coup de foudre pour le Caravage me confirmait à quel point la vraie vie consistait à s'ouvrir à une parole qui vous nourrit, à lui offrir votre corps, à vous laisser traverser par cette expérience et à écrire. Qu'est-ce que vous entendez, Yannick, par la vraie vie, vous?
La vraie vie, ce serait peut-être, indépendamment de l'aventure qui se dessine dans ces mots-là, c'est la disponibilité, se rendre disponible, fabriquer sa vie pour arriver à cette liberté libre dont parlait Rimbaud. C'est pas si évident, c'est de moins en moins évident.
C'est de plus en plus rare.
Ouais. Comment faire pour se rendre disponible, pour désactiver les emplois du temps, voilà, pour avoir des journées, des nuits où on peut ne rien, non seulement ne rien faire, mais être tout entier à ce rien. Et ce dont vous parlez là, c'est l'expérience qui m'est arrivée il y a plus de 30 ans face à Saint-Louis des Français à Rome, face à un tableau mais stupéfiant. Enfin, aujourd'hui, je continue à en rêver. Enfin, j'y vais de temps en temps le voir. C'est la vocation de Saint Matthieu. Il y a ce bras, ce doigt tendu du Christ vers un homme dans une taverne qui est en train de compter son argent. Et un homme qui compte, voilà, un homme du calcul. Et cet homme, c'est Matthieu, c'est Lévi qui va devenir Matthieu. Et il y a eu un appel, il y a eu une demande de disponibilité. Voilà, quelqu'un est venu, c'est le Christ, ça pourrait être, je ne sais pas, on peut le dire autrement. Et voilà, se rendre disponible à ce qui est plus grand que nous.
Mais quand vous n'entendez pas d'appel, quand il n'y a plus de voix, quand il n'y a rien d'autre que le silence, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes confronté au silence ?
Découragement, enfin la dépression, le rien, qu'est-ce que je fais? Ça c'est la, ça j'ai pas de recette. Si je savais, ce serait merveilleux. Mais l'écriture aussi, c'est un appel, mais c'est aussi une astreinte. Moi j'y travaille, c'est aussi un travail. Je m'y mets tout le temps, enfin, en espérant que ce vide se transforme en autre chose.
J'ai l'impression que vous ne parlez que de cela, de paroles, de silence, de langage, de récit. Les mots sont-ils en mesure de tout raconter?
Je pense que non seulement ils sont en mesure de tout raconter, mais c'est eux qui nous indiquent ce qu'il y a d'irreprésentable. Moi je pense qu'il y a de l'irreprésentable. Mais il n'y a que les mots qui nous invitent à cet irreprésentable-là. Le coup de foudre, par exemple. Que ce soit un coup de foudre pour quelqu'un ou pour un tableau, moi c'est le Caravage, et c'est un véritable coup de foudre. Le coup de foudre, c'est ce qui nous coupe la parole. Mmh. Voilà, on est dans ce vide dont vous parlez, et pourtant ce vide n'est pas un vide dépréciatif ou dépressif. C'est précisément, je dirais, c'est quand la parole se met à nu. Eh ben il y a ce silence là. Quand enfin on est arrivé, je sais pas, les grands mystiques ou Blaise Pascal, ça devait être ça. Au bord extrême de l'écriture, de la parole, de l'expression, il y a ce beau silence.
Celle qui est dans le silence, mais alors pas forcément un beau silence dans cette émission. Peut-être que vous la connaissez, Yannick, c'est la culture et son actualité dont l'extravagance est absolument infinie. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 21 février?
Depuis le grand saut.
Onigo Franco, les francopholistes de La Rochelle révèlent ce matin 22 nouveaux noms qui rejoignent la programmation de leur édition 2019, prévue du 10 au 14 juillet prochain. Alors on savait déjà qu'on allait pouvoir compter sur M, Christine and the Queens ou Angèle pour faire bouncer la foule rochelaise. On sait désormais qu'on pourra aussi profiter du très chic Alain Chamfort, de la Grande Sophie, du rocker Bertrand Belin et de la groovy Camélia Jordana. Puis il y a aussi ce groupe de métal au pseudo intrigant, inspirant même, Ultra Vomit. Il est 9h19 sur France Inter. De la boulette à Bologne. Pas moins de 5 éditeurs français ont été récompensés au Bologna Ragazzi 2019, décerné dans le cadre de la prestigieuse Foire internationale du livre jeunesse de Bologne. Ainsi, les éditions Thierry Magnier, Albin Michel Jeunesse, Actes Sud Junior et les éditions des Éléphants repartent avec des mentions spéciales, tandis que Bayard fait coup double avec une mention pour Mes animaux tout doux du jardin de Xavier Deneux et un prix numérique pour leur site éducatif et ludique Bayam. Bouillard!
Bienvenue dans l'exposition La collection Courtauld, le parti de l'impressionnisme à la Fondation Louis Vuitton.
Courtauld d'intérêt. La Fondation Vuitton inaugure aujourd'hui une grande expo autour de la mythique collection Samuel Courtauld, du nom de ce fabricant de textiles devenu un immense collectionneur d'art. Jusqu'au 17 juillet, on court y découvrir 110 peintures et dessins comme autant de trésors rarement visibles en France, notamment des toiles de Manet, Cézanne, Gauguin, Renoir, Van Gogh. Go, go, go.
Et sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste.
Les bouquinistes à la page, première étape avec une potentielle candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les bouquinistes parisiens viennent d'entrer au patrimoine culturel immatériel français, incontournable libraire des quais de Seine. Ils ont développé depuis le XVIe siècle un savoir-faire bien particulier, souligne le ministère de la Culture, comme la vente à ciel ouvert et sans la moindre des nouvelles technologies de vente ou de référencement des ouvrages. Big up! Et l'écrivain Yannick Enel, invité de Boomerang ce matin pour son livre consacré au Caravage, un peintre que vous découvrez par hasard adolescent dans un livre de la bibliothèque de votre internat. Quelle image est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette image?
Oui, j'avais 15 ans. C'était un détail du tableau qui s'appelle Judith décapitant Holoferne. Mais on ne voyait pas la décapitation, on voyait que le très beau visage aux sourcils froncés de Judith et sa gorge majestueuse, comme dirait Baudelaire.
Et quel choc est-ce que ça produit en vous?
Un choc érotique.
Ah d'accord.
Ah bah c'était pour le dire plaisamment, j'avais rencontré l'objet de mon désir. C'est, parfois on peut passer sa vie à chercher l'objet de son désir, comme disent les psychanalystes. Mais là, 15 ans.
Et le désir est quelque chose à voir avec la mort alors?
Eh ben, je ne le savais pas à 15 ans et j'aurais préféré ne pas le savoir, mais quand j'ai redécouvert le tableau 15 ans plus tard, que je l'ai vu en vrai et surtout quand j'ai vu ce que faisait cette femme avec ses bras, elle était en train de couper la tête de ce général assyrien dans cet épisode de la Bible, ben, j'ai vite compris que peut-être cette tête c'était la mienne et que le désir donnait sans doute, paraît-il, sur la mort.
Ce qui est en tout cas assez fascinant, c'est que la découverte de cette image et de la femme qui est représentée va aussi catalyser un désir d'écriture chez vous, Yannick. Et vous écrivez d'ailleurs qu'écrire et désirer sont des activités qui se confondent. Alors dans quelle mesure l'écriture est-elle, pour ainsi dire, un acte érotique pour vous ?
Ben, elle est liée pour moi à l'intensité. Elle est liée à encore une fois, à ce qui déborde, à cet excès qu'on n'arrive pas à comprimer. Et pour moi, c'était très naturel d'essayer de décrire ce visage, de décrire ses épaules, de décrire cette petite perle en forme de boucle d'oreille avec un papillon noir qu'elle avait aux oreilles, d'essayer de décrire ce corsage humide dont je ne comprenais pas pourquoi il était humide, mais elle était au travail, elle était en train de tuer quelqu'un. Mais j'ai tout de suite cherché à mettre des mots effectivement sur cet abîme, enfin qui me renvoyait à, encore une fois, à une forme de solitude.
Aujourd'hui encore, vous écrivez « Penser à une femme, c'est écrire ».
Ouais. Oh ben ça c'est ma vie, disons. J'associe l'écriture à quelque chose de féminin, c'est-à-dire à quelque chose que je n'ai pas, que je ne possède pas, que je ne peux pas posséder. Et pour moi, écrire, ce serait rencontrer une jouissance qui n'est pas la mienne, la jouissance du monde, un ruissellement, alors que je me figure féminin. C'est toujours ça. J'ai toujours eu une femme dans ma tête, pour le dire comme Freud, et écrire pour moi c'est tendre vers cette femme qui peut-être n'existe pas, ou c'est toutes les femmes, je sais pas, ou c'est la femme aimée, enfin. Mais voilà, c'est ça, c'est un texte ardent, en feu, que j'essaye d'ouvrir, enfin, de phrase en phrase. Oui.
C'est la voix d'une femme que vous avez souhaité nous faire entendre ce matin, la voix de Delphine Seyrig lisant du Marguerite Duras en 1975.
Je pourrais me tromper. Croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autre chose. Par exemple, oui, d'autre chose, par exemple d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois, belle ou jolie. Jolie, par exemple, pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. Je suis avertie déjà. Je sais quelque chose. Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni le prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient.
Qu'est-ce que vous entendez dans cette voix, Yannick Enel ?
J'entends l'esprit, justement, comme elle dit. L'intelligence, le spirituel qu'il y a dans ce corps. Quand elle lit Duras, c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais il se trouve que Duras dit que tous ses textes, une fois qu'elle les écrit, elle les entend lus par Delphine Seyrig dans sa tête. Et elle a cette phrase, j'ai apporté pour vous Outside de Duras, un recueil de textes, et il y a ceci, ces trois lignes, c'est Duras qui dit de Seyrig, on dirait qu'elle vient de finir de manger un fruit, que sa bouche en est encore toute humectée, et que c'est dans cette fraîcheur douce, aigre, verte, estivale, que les mots se forment.
C'est incroyable.
Oui, c'est très très beau.
Qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, justement, Yannick Enel, dans la vie ?
Dans la vie ?
Dans le monde ?
Oh là. Ce que je trouve beau, c'est le moment où tout chavire. C'est le moment où le vertige me remplace, où je ne suis plus là pour contrôler quoi que ce soit, c'est l'ivresse, voilà.
De beauté, vous ne cessez d'en parler. Dans ce livre et cette rencontre avec le Caravage, vous lui donnez la valeur d'une initiation, puisqu'elle vous permet de trouver dans votre vie une façon de saluer la beauté. Alors, qu'est-ce que vous entendez par saluer la beauté, d'ailleurs, qui est une expression qui revient?
C'est une expression de Rimbaud, que je me suis permis d'emprunter, de passer comme ça clandestinement. saluer la beauté, c'est là encore se rendre disponible à quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir.
Ça a à voir avec le sacré, alors.
Ça a à voir avec le sacré, ça a à voir avec un mouvement. Delphine Seyrig le disait avec les mots de Duras, on n'a pas la beauté. La beauté peut apparaître. Il s'agit d'art, en fait.
Oui, parce que ce mot beauté, il semble être devenu un peu galvaudé, non? Il semble ne plus vraiment être l'apanage des arts, mais aussi celui de la publicité, aujourd'hui des réseaux sociaux.
C'est-à-dire que la beauté est complètement prise en charge par la propagande expressive, enfin, vous appelez ça la publicité, effectivement, c'est tout le contraire du calcul, en fait, c'est le contraire de la marchandisation. La beauté n'a même pas besoin d'être étalée, ni exprimée, enfin... Quand le Caravage peint un Bacchus complètement ivre qui vous tend sa coupe de vin, ou quand il peint le Christ en train d'être arrêté par des soldats sur le Mont des Oliviers, il s'agit de cette grande chose, enfin, qui peut sauver le monde, enfin, mais il s'agit de quelque chose qui est entièrement intériorisé, qui est d'une immense violence, et qui est la beauté.
Se peut-il que nous devenions de plus en plus insensibles à la beauté aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il y a un épaississement de la sensibilité. Enfin, on le sent tous. Enfin, il s'agit pas seulement de faire l'expérience du stéréotype qui nous agresse en permanence, mais du fait que l'insensé et l'insensible deviennent la même chose. Tout devient grossier, non? Je sais pas. Donc, c'est pour ça que pendant un an, je me suis tourné vers ces tableaux qui sont pas des tableaux du passé, mais des tableaux de bondissement. Enfin, où le fond noir qu'invente le Caravage dit aussi l'obscurcissement dont nous sommes l'objet, au fond.
On va reparler de beau et d'écriture, de désir, de peinture, juste après un petit peu de douceur. Tiens, une douceur du mardi. Norah Jones, Painter Song. Vous êtes sur France Inter avec Yannick Enel. Vous écoutez Boomerang.
If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me, we'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me. Could paint a memory. Climb inside the swirling skies to be with you. The swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il y a cet air préoccupé et intense ce jeudi matin de l'artiste tourmenté avec son front un peu plissé, son cheveu en bataille comme battu par les embruns bretons, son œil gris bleu profond. On a envie de s'asseoir à ses côtés et de lui demander ce qui se passe, de lui remonter un petit peu le moral à coups de chouchène, de château de sable, de bigouden avec son écharpe nouée autour du cou et sa chemise ouverte ce matin. L'écrivain Yannick Enel, invité de Boomerang pour parler du Caravage notamment. Et en vous lisant, on comprend à quel point vous avez été marqué par les corps peints par le Caravage. Qu'est-ce que c'est un corps pour vous, Yannick ?
Alors, comme ce sont des figures peintes, ce sont des corps qui ne se donnent pas. Comment aller vers ces corps ? Je pense qu'il n'y a que, des phrases qui peuvent... Il y a l'œil et les, phrases. Vous me demandez ce que c'est qu'un corps ?
Oui.
Ah bah dites donc, dès le matin.
Il n'y a que le matin qu'on peut poser cette question.
Mais c'est très bien. Ou alors,
le soir, ce serait tragique.
Très tard dans la nuit, alors. Qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Moi, pour moi, le corps, comme le disait tout à l'heure Delphine Seyrig, de celui des femmes, c'est quelque chose qui a l'air d'apparaître, mais qui, au contraire, se dissimule dans quelque chose de plus subtil. Un corps, c'est d'abord de la voix, en fait.
Dans les tableaux du Caravage, ce sont des corps glorieux, quand ouais. même. Pourquoi, d'ailleurs, est-ce que le corps ne saurait-il être autrement que glorieux ?
Mais parce qu'il essaye de se confronter à quelque chose qui est la mort, tout simplement.
Conjurer la mort.
Conjurer la mort.
La peste, en l'occurrence.
Ben, c'est-à-dire que j'ai découvert, effectivement, que le Caravage, qui a perdu son père très tôt, il avait 6 ans, a vécu à Milan, à une époque où il y avait où la peste faisait des ravages, enfin, des dizaines de milliers de gens mouraient. Et je me suis demandé si le fond noir de ces tableaux ne venait pas, vous savez, de ce qui reste sur les murs, enfin, après la peste. Et toute la vie du Caravage, une vie fiévreuse, et il meurt de fièvre à 39 ans, d'infection et de fièvre. Je me suis demandé si cette vie n'était pas entièrement marquée de manière tragique par cette confrontation avec la mort.
C'est intéressant. Dans quelle mesure l'art est-il toujours pour vous une conjuration de la mort, Yannick Hennel ?
Je pense que l'art, c'est une intensification de la vie, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce débordement où on est disponible aux choses les plus absolues. Et les choses les plus absolues, à part l'amour et la mort, je vois pas. Enfin, la mort est forcément là, mais pas comme un frein. Elle est là comme un démon qui nous regarderait, mais qui nous obligerait à ne pas se contenter d'une petite vie, à faire de sa vie quelque chose de grand. Enfin, et quelque chose de grand, c'est pas quelque chose de forcément démonstratif ou d'immodeste. C'est quelque chose qui se destine, comme on peut chaque jour, qui se destine à l'art, à l'écriture, au battement de cœur. Voilà, qu'est-ce qui nous fait battre le cœur ? C'est ça qui pour moi s'approche le plus de l'art et de la beauté.
Vous écrivez du Caravage, il peint avec les morts.
Oui.
Ça, c'est une phrase quand même très forte. Peindre avec les morts. Vous peignez, vous aussi, avec les morts ?
Ben, j'écris avec les morts, oui. J'écris avec mes morts. Mais c'est pas forcément un deuil qui nous précipite vers le malheur. Enfin, le deuil est une des conditions même de la vie. Et c'est aussi un trésor, enfin, cette mémoire de tous ceux qui sont avec nous, enfin, avec les esprits ou les fantômes, je sais pas, chacun dit comme il veut. Le Caravage se confronte à la mort sans cesse, et surtout parce qu'il est obsédé par quelque chose d'incroyable, et je souligne le mot incroyable, qui est la résurrection. Je ne sais pas si le Caravage croyait en la résurrection, mais je pense que quand il peint, il ressuscite les corps sans cesse, ceux des saintes de Marie-Madeleine qu'il peint. Et vous savez qu'il allait chercher des petites prostituées qu'il plaçait dans son atelier saturé de pénombre et qu'il en faisait une sainte. Et la Judith dont je parlais tout à l'heure, qui a été mon premier amour, enfin, cette Judith était une prostituée qui s'appelait Filide Melandroni. Et après l'avoir peinte, son proxénète... ne pouvait plus la maîtriser. Enfin, elle était devenue de l'art et les princes tombaient amoureux d'elle. Et le Caravage a dû se battre avec ce proxénète et l'a tué. Ranuncio Tomazoni. Tout le malheur du Caravage qui a tué un homme et qui a vécu 4 ans en exil vient de là, du fait qu'il a défendu une courtisane qu'il a peinte.
S'il peint avec les morts, quelle serait la matière de votre écriture ? Qu'est-ce qu'il y aurait dans votre langue à vous ? La mémoire peut-être, je
la
me
mémoire,
disais,
oui.
En préparant cette émission.
La mémoire, mais je pense que la mémoire, c'est quelque chose qui est en avant. La mémoire, c'est pas quelque chose qui nous alourdit. Vous me parliez de l'épaississement de la sensibilité aujourd'hui. Je pense que l'épaississement de la sensibilité contemporaine va avec la perte de la mémoire, avec l'amnésie organisée.
Il s'agit de la réveiller.
Exactement. Les phrases sont toujours des phrases de réveil. Et la texture même de l'écriture, pour moi, c'est quelque chose de très charnel. Enfin, la langue même qui se trame dans des phrases et celle qu'on voit également dans des tableaux, dans le Caravage, enfin, et c'est fait avec du noir animal, vous savez, des os, ouais. Des os brûlés. Enfin, cette texture, elle peut être très lourde et très légère. C'est la texture même du corps de ceux qui ont été là, de ceux qui sont autour de nous. C'est un monde, au fond.
Comme je vous remercie, Yannick Enel, d'être venu faire un tour dans cette émission ce matin pour ces mots, pour cette pensée. Je rappelle que La Solitude Caravage sort aujourd'hui même aux éditions Fayard, que c'est aussi beau que passionnant. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chantais ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change.
Luciani nu sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers l'instant M.
Eh ben on est au taquet Augustin. Salut.
À
ciao,
demain.
À demain.